Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 22 janvier, il est 8h30 au programme de cette matinale. Nous sommes en studio avec Marie Briffa. Bonjour Marie.
Bonjour.
Avec toi, on va parler de la pédagogie Montessori et des ateliers que tu donnes les mardis et les mercredis. Merci beaucoup d'être avec nous en ce matin, lundi matin à 8h30, parler de pédagogie alternative, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais.
Et puis dans un instant, nous serons par téléphone avec Martin Cerf. Martin qui joue son spectacle Le Prolepse des Profanes. J'ai appris une figure de style en préparant cette émission, Prolepse. Et le spectacle de Martin, c'est ce vendredi au Pont de Montvert. On en parle avec lui tout de suite. Il y aura de la musique comme d'hab. D'ailleurs, exceptionnellement, je ferai l'édito juste après l'interview de Martin, puisqu'elle concerne l'école. Et j'ai hâte d'entendre ton avis, Marie. Ça m'intéresse beaucoup. Le temps d'appeler Martin. On écoute Madness, le morceau, c'est la vie.
Oh, life begins at 5 to 8. No time to waste, it will not wait. A lay-in that was yesterday. Up a matter into the fray. There'll be no time to catch your breath. The enemy of life is dead. So sweep the hallway, mop the wall. Your destiny's about to cool. The legislation's in the bag. Justice, a toothless old hag. It's every man now on his own. It's all for one, you better run. And stand up tall against the wall. And one by one you all shall fall. And though you try to get back home, your cover's bare.
Un extrait de Madness, c'est la vie. Et si tout va bien, nous sommes par téléphone avec Martin Cerf. Bonjour Martin.
Bonjour.
Vous m'entendez bien?
Oui. Et vous, vous m'entendez correctement?
Ouais, ça va. Ah d'accord, ça va le faire. Martin, vous serez au Pont de Montvert avec votre spectacle Le Prolepse des Profanes ce vendredi. Merci d'être avec nous et merci car j'ai appris une figure de style grâce à vous. Regarde cette voiture comme elle est belle, je viens de faire une prolepse. Alors pourquoi votre spectacle s'appelle-t-il comme ça, Le Prolepse des Profanes?
Alors, ça c'est une question difficile pour commencer parce que on est plusieurs à avoir écrit ce spectacle et c'est pas tout à fait moi qui ai décidé ce nom. Je travaille avec un conférencier, un maître de conférence et professeur de recherche universitaire. Et donc je dois vous avouer que c'est lui qui a choisi un titre compliqué comme ça. Je sais que c'est une figure de style, voilà, mais en général, quand j'essaie d'expliquer réellement le sens de ce mot, par contre, d'ailleurs, c'est la prolepse, c'est pas le prolepse.
Oui, c'est la prolepse.
En général, quand j'essaie de l'expliquer, je m'embrouille toujours. Donc, franchement, le mieux, c'est de venir voir le spectacle et de lui demander à la fin, parce que sinon, vous allez pas comprendre ce que je vais raconter, que je ne comprends en général pas non plus.
Alors j'ai regardé le petit teaser du spectacle Jonglerie, danse, clown. L'objectif c'est vraiment de balayer tous les arts et de belle manière à en croire l'extrait que j'ai vu. L'idée c'est de se demander ce qu'est un spectacle de cirque. Alors vous n'avez pas réussi à répondre à la prolepse du profane. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est quoi un spectacle de cirque?
Eh ben, un spectacle de cirque, ça peut être beaucoup de choses et surtout ça a pas mal changé depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Et c'est pour ça d'ailleurs que Monsieur Franck, le professeur, m'accompagne sur les créations, parce que ce spectacle que je joue, c'est un spectacle de cirque contemporain qui évoque justement le positionnement d'un jongleur dans le monde moderne et on s'est dit que ce serait intéressant de le remettre dans un contexte plus général parce que c'est surprenant comme façon de faire du cirque. Ce n'est pas du cirque traditionnel, je ne viens pas avec un chapiteau, des animaux et tout ça. Donc parfois, le public peut être un peu pris au dépourvu et donc on s'est dit que c'était bien de lui donner quelques éléments de compréhension.
Alors voilà. comment et où a été créé votre spectacle ?
C'est un spectacle qui a été créé dans un cadre effectivement particulier. C'est au sein d'un dispositif qui s'appelle le cirque portatif. C'est un dispositif qui est porté par la Verrerie d'Alès, le pôle cirque du Gard. Et donc la Verrerie a accompagné la création, elle l'a financée et elle m'a accompagné notamment dans un collège. J'ai créé le spectacle en partie dans un collège et je donnais des ateliers aussi. Et ce spectacle, il est prévu pour jouer dans des lieux non dédiés, c'est-à-dire des lieux en intérieur mais qui ne sont pas des salles de spectacle. Comme la plupart du temps, ce sont des médiathèques ou des salles polyvalentes.
À quoi doit s'attendre le public ce vendredi dans votre spectacle ?
À être surpris, en premier lieu. Et à y voir du cirque et donc du cirque accessible à des enfants et aussi à des choses qui s'adressent plus à un public adulte. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses choquantes pour les enfants, simplement on s'est rendu compte que vu les sujets qui étaient abordés, même si c'est souvent avec de la dérision et vu la longueur du spectacle, eh bien, pour des enfants en bas âge, souvent, ça les faisait décrocher, d'autant plus que le spectacle dure 50 minutes. Sinon, c'est un spectacle qui se veut drôle et léger sur certains points et qui en aborde d'autres qui permettent de réfléchir un peu sur le monde dans lequel on vit, si on a envie de le regarder comme ça.
Alors, bien sûr, qui dit spectacle dit partage. Et vous donnerez un atelier samedi matin, donc le lendemain de votre spectacle au Pont de Montvert, où vous associez deux notions, jongle et maths. En quoi ça va consister ?
Alors, là encore, c'est. J'ai parlé de maths, mais il s'agit surtout de chiffres. Je dis ça pour rassurer les personnes à qui ça peut faire peur de dire qu'on va faire des maths un week-end, ça je comprends. En fait, c'est juste une façon d'apprendre le jonglage qui s'appuie sur une notation chiffrée. Ça correspond un peu à une partition musicale. Les lancers sont représentés par des chiffres, et donc en assemblant des suites de chiffres, on arrive à faire des figures. Et il y a effectivement, pour celles et ceux qui s'intéressent, quelques règles de base de mathématiques qui permettent de comprendre comment on peut assembler ces chiffres. Voilà.
Ça veut dire que finalement, la jonglerie ou les arts du cirque en général peuvent être accessibles à tout le monde ?
Ça oui, peut-être le jonglage plus particulièrement que d'autres disciplines qui sont... qui peuvent être très exigeantes physiquement. L'avantage du jonglage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique extraordinaire pour l'aborder. Il faut déjà seulement avoir une coordination à peu près correcte et surtout pas mal de temps à y consacrer parce que ça demande de s'entraîner pas mal.
Allez voir ce spectacle co-accueilli par les Seines Croisées et Passe-Montagne, le Prolepse des profanes.
Hein, la Prolepse des profanes. Mais ça, il faudra demander à Rémi à la fin du spectacle.
En tout cas, on en apprendra vraiment beaucoup. Et vu le teaser, plein de poésie, de l'humour, de la jonglerie, de la danse, c'est ce vendredi à la Maison du Mont-Lozère, au Pont de Montvert. Les réservations sont à faire sur lesseinescroisées.fr. Merci beaucoup, Martin, et bon voyage.
Merci à vous, bonne journée,
au revoir. Et oui, compliqué, la liaison était dans un train, hein. Après on fait ce qu'on peut. Toujours en direct sur Radio Barthas, nous sommes avec Marie qui est avec nous, on va parler de pédagogie alternative. Ça t'a parlé un peu les maths et la jonglerie, les chiffres en tout cas ?
Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de mettre en lien la série de figures avec un codage en fait. Vraiment ça confirme de plus en plus les liens qu'il peut y avoir entre la cognition et le mouvement et à quel point les deux sont vraiment intriqués.
On va parler de pédagogie alternative et comme je le disais, l'édito se fait maintenant et non au début d'émission exceptionnellement aujourd'hui.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Macron s'est exprimé la semaine dernière en conférence de presse et je ne peux m'empêcher de voir un retour en arrière, sincèrement en ce qui concerne l'école. Sur ses annonces, il va quand même bien falloir sortir les postes et les carnets de chèques. Le président de la République a eu beau répéter que les enseignants et les enseignantes sont remarquables, je le cite, ils ne sont concrètement pas assez nombreux aujourd'hui pour répondre à toutes les envies de Macron. Plus de théâtre, plus de sport, plus d'histoire de l'âge, davantage d'études des grands textes, paroles et paroles. Le chef de l'État a surtout profité de sa conférence de presse pour marteler son idée forte, celle de l'ordre et du redressement civique à l'école, dans la droite ligne du réarmement évoqué à l'occasion de ses vœux aux Français et aux Françaises. Apprentissage obligatoire de la Marseillaise, ce n'est pas vieux jeu, c'est ce qui nous unit, a-t-il plaidé. Généralisation de l'uniforme dès 2026. Si l'expérimentation lancée dans 100 établissements se révèle concluante, et génération du service national obligatoire, le SNU, pour tous les élèves de seconde. Emmanuel Macron souhaite également doubler les heures d'éducation civique, désormais davantage tournée vers les symboles pour faire nation. Selon lui, l'école doit créer des républicains à travers notamment des rites comme la remise de diplômes que les jeunes adorent dans les séries américaines, croit-il savoir, mais où va-t-il chercher tout ça? Comment dire? Je suis pas un fin connaisseur, hein, mais sans déconner. Il y a déjà la difficulté de recruter des profs et des emplois du temps surchargés pour les enfants. Rajouter à ça, comment dire, début des cours à 6h du mat et fin à 20h, allons-y. Et cette idée de chanter un chant belliqueux, pourquoi pas le retour de Maréchal, nous voilà. Quant à l'uniforme, 200 balles par gamin, autant dire qu'on pourrait utiliser cet argent autrement. De plus, s'il avait le pouvoir de réduire les inégalités, ça se saurait. Marie, un avis tout à fait personnel et en toute liberté, bien sûr. Quel est ton avis sur tout ça?
Je crois que tu as déjà tout dit.
Au moins, c'est clair. Allez, on va parler des ateliers et justement de pédagogie alternative. Avant tout, contextualisons. Est-ce que tu peux nous dire ou nous rappeler ce qu'est la pédagogie Montessori?
Alors, la pédagogie Montessori, ça vient donc de Maria Montessori qui... qui est la première femme médecin en Italie, qui est une philosophe, une scientifique et une chrétienne aussi. Et donc dans le cadre de son travail, de sa formation de médecin, elle a pu observer donc, des enfants et se rendre compte un petit peu des leviers des leviers moteurs finalement dans les apprentissages. Et c'est vraiment sur cette observation de l'humain à différents stades de son développement qu'elle a fondé sa méthode. C'est pas un mot que j'aime dire méthode parce que c'est beaucoup plus humain, global, philosophique qu'une simple méthode, mais il y a quand même une méthodologie importante dont c'est important de parler.
Qu'est-ce qui t'y a amené toi personnellement à cette pédagogie alternative? Parce que tu dis méthode, moi j'aime bien pédagogie alternative en fait, une autre manière de voir la pédagogie.
Alors oui, moi dans méthode c'est méthodologie, c'est manière de faire, c'est plutôt cette idée-là et la manière dont ça se passe dans une école, c'est important parce que les pratiques façonnent, modèlent un fonctionnement, une pensée. Donc c'est quand même important, même si ça ne se résume pas à ça. Moi, comment je suis arrivée à Montessori? Alors justement, c'est intéressant. Enfin, c'est rigolo de voir le parcours. Moi, j'ai commencé à la base avec un bac STI art appliqué. Donc, parce que j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais enfant, adolescente. Et c'est ça qui m'a motivée à continuer mes études. Donc, je suis partie là-dessus. J'ai enchaîné sur l'école des Beaux-Arts. Donc, j'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts. Et là, ça a été un peu, un choc dans le bon sens du terme. Parce que justement, la pédagogie aux Beaux-Arts, c'est trouve un sujet qui t'intéresse et débrouille-toi avec ça. On a des ateliers de bois, métal, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, gravure. Mais c'est toi qui te débrouilles, quoi. Et là, je me suis rendu compte que... la méthodologie pour le coup, apprendre à apprendre, je ne savais pas faire. Et les Beaux-Arts, ça a été l'apprentissage d'apprendre à apprendre à faire les choses, découvrir les techniques, mais à savoir ce que moi aussi j'avais envie de faire, donc beaucoup d'exploration. Et je me suis dit que, enfin, ça a été vraiment une révélation de me dire, mais en fait, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à faire. Et une fois qu'on a ses propres méthodologies, ses propres, son propre rapport aux choses et sa propre connaissance de soi-même, on peut tout apprendre. Et le monde est un terrain de jeu extraordinaire quand on est curieux, et parce que la curiosité, c'est aussi quelque chose qui se développe, en fait. C'est pas inné. Et donc du coup après mes 5 ans aux Beaux-Arts, donc je suis montée sur Paris, et avec un groupe d'amis des Beaux-Arts, on a créé une association qui s'appelait Diagonale. Et l'objectif de Diagonale, c'était vraiment de permettre la rencontre des artistes et des enfants dans les écoles, en se disant qu'ils avaient beaucoup de choses à partager. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. À cette époque, on avait les ateliers TAP avec les mairies. Donc avec notre association, on a été en partenariat avec la mairie de Paris, et les artistes du collectif de Diagonale ont proposé donc des ateliers dans les écoles sur la base de leur propre pratique artistique. Donc toujours dans cette idée que apprendre à apprendre, c'était possible quand on a un moteur, un vrai moteur, un vrai centre d'intérêt. Voilà, et petit à petit, j'ai été de plus en plus intéressée par ce qui se passait justement dans les ateliers avec les enfants. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et là, j'ai vraiment rencontré Maria Montessori, et j'ai été vraiment touchée. Et je partageais clairement sa vision, parce que c'est pas seulement une méthode, encore une fois, c'est vraiment une vision de l'humain, de sa place dans l'univers, et comment est-ce que l'enseignement peut vraiment guider les enfants. Pourquoi ? Pour un monde ça peut paraître bête, mais l'objectif de tout ça, c'est la paix, quoi, l'éducation à la paix. Et donc là, j'ai décidé de faire la formation donc de Maria Montessori, mais pour les enfants de 6 à 12 ans, parce que c'est un univers qui me parle, en tout cas à l'époque, qui me parlait plus. Et c'est vrai que c'est une tranche d'âge qui est particulière. On a beaucoup l'imagination, le développement, les questions métaphysiques. Et pour le coup, on est vraiment en lien avec ce qu'on peut attendre des artistes, et en tout cas d'une pratique artistique. Et donc j'ai fait cette formation donc à l'ISMM, l'Institut supérieur Maria Montessori, à Montpellier. C'était la première, c'était l'ouverture d'ailleurs de cette formation pour le 6-12 qui n'existait pas en France jusqu'alors. Et, ou alors sous cette forme-là, on va dire, parce que là c'était vraiment pendant une année continue, toute l'année scolaire. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 3 ans donc à l'école Montessori de Lyon, qui a été fondée il y a 40 ans par Françoise Néry. Donc c'est une des premières écoles Montessori en France. Voilà. Et là, j'ai pu mettre en pratique, en expérimentation, en travail, tout l'apport théorique de cette année de formation qui était très, très, très intense.
J'imagine. Alors, arrivé en Lozère, tu donnes maintenant des ateliers. Ça se passe les mardis de 16h45 à 18h et le mercredi après-midi à partir de 14h jusqu'à 17h30. C'est donc des ateliers, si j'ai bien compris, où tu vas aborder les notions de maths et de français avec les moyens Montessori, on dit comme ça,
La pédagogie
Montessori. Et c'est donc là pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est ça?
Exactement.
Concrètement, comment se passe un atelier avec toi?
Alors, ces ateliers-là, c'est clairement dans la perspective du soutien scolaire. Donc, c'est vraiment fait sur mesure par rapport aux besoins des enfants, qui ne sont pas les mêmes, en fait. Et comme c'est des temps assez limités, l'idée c'est d'aller à l'essentiel en fonction de là où il y a quelque chose à creuser, là où il y a quelque chose à renforcer. Alors comment ça se passe? On est, c'est très ritualisé, donc on a vraiment nos petites habitudes. Il y a vraiment des temps spécifiques, donc le temps où on se retrouve, le temps où on se dit bah là on est ensemble pendant un certain temps, donc on fait chanter notre bol tibétain, on l'écoute, on se concentre, voilà, c'est vraiment des temps qui sont très importants. Et puis on a aussi un temps dédié aux émotions, ça aussi c'est vraiment le rituel très important.
De météo des émotions, c'est ça? Comment tu te sens aujourd'hui?
Voilà, alors déjà la météo des émotions, c'est je t'écoute, on t'écoute, on s'écoute et on donne une place à ça. Et puis après, on a toujours aussi de petits exercices pour enrichir la connaissance de nos émotions, parce que c'est vrai que quand on fait la météo, si on fait que la météo, on a toujours je suis triste, je suis content, je suis en colère. Et c'est là où l'idée, c'est de creuser avec les enfants, parce que les émotions, il y en a autant que les couleurs, c'est-à-dire des millions, et des variations. Et l'idée, c'est d'arriver à cerner ces petites variations. Donc moi, je crée plein de petits exercices en m'appuyant sur le dessin, la manipulation, pour commencer à se questionner ensemble sur une émotion. Quelle variation elle peut avoir, essayer de s'auto-observer pour essayer de les décrypter. Et puis après, on enchaîne aussi sur les besoins, parce qu'une émotion, c'est le résultat d'un besoin qui n'est pas assouvi. Donc, quels sont nos besoins? Alors, évidemment, on a les besoins de base, hein, les besoins fondamentaux. Sans ça, on ne survit pas. Mais on a des besoins aussi qui sont beaucoup plus subtils. Et l'idée, c'est d'arriver à se rendre compte de la chaîne aussi des émotions. Quel besoin ça vient toucher? Est-ce que ce besoin-là, il est plus important chez moi que chez toi? Oui. Ok, donc c'est aussi accepter les différences. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de réflexion ensemble pour être plus à l'aise avec ces notions-là et pouvoir s'exprimer de façon plus fine et s'auto-observer quotidiennement. Voilà, donc la récurrence, ça aide, ça soutient en fait cette pratique-là chez les enfants. Et donc ensuite, après, on a des petits exercices. Ça dépend vraiment des enfants, de leur capacité d'attention, de leurs besoins au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau de la méthodologie. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin de passer par le dessin pour comprendre certains concepts, d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise avec la manipulation. Voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'idée d'histoire. Je raconte beaucoup d'histoires. L'idée, c'est vraiment de marquer l'imaginaire des enfants pour que des concepts s'ancrent, de façon à aussi éveiller leur curiosité. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur les natures de mots. Donc, le déterminant, mais c'est extraordinaire, le déterminant. Ça paraît...
Non, c'est
pas un mot qui fait rêver. Ouais. Mais quand on raconte l'histoire du déterminant, en fait, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin au quotidien. Et les histoires, ça permet de provoquer ces prises de conscience de façon ludique. Parce que les histoires, c'est fait pour... être écouté, mais être re-raconté, s'approprier. Et quand on re-raconte l'histoire du déterminant, en fait, on s'approprie un peu le concept. Donc voilà, ça passe par un ensemble d'approches comme ça, qui permettent aux enfants de s'approprier et de se familiariser avec les concepts de façon, on va dire, non scolaire dans la représentation qu'on peut se faire du travail scolaire.
Tes ateliers sont construits en lien avec les parents, les professionnels et en fonction de chaque enfant. L'idée, c'est ça. C'est pas, entre guillemets, d'aller à l'encontre de ce que l'enfant apprend de manière traditionnelle à l'école. On est d'accord. C'est juste un complément, en fait, à tout ça.
Ah oui, bien sûr, parce que de toute façon, les apprentissages socles, tout le monde en a besoin. L'approche Montessori... Alors, oui, c'est vrai que l'approche Montessori, elle peut, on ne sait pas trop finalement pour comment ça fonctionne. Est-ce que c'est très éloigné des apprentissages de l'école qui est sous contrat? Mais oui, les apprentissages socles, c'est les mêmes, les quatre opérations. Comprendre un petit peu comment fonctionne un mot, comment fonctionne un mot dans la phrase, être capable de construire des phrases, être capable de comprendre un peu l'orthographe. C'est juste la méthodologie qui va changer. Donc là, ce qui est chouette, c'est que j'apporte un autre regard sur des choses qu'ils connaissent déjà. Donc ça fait sens, ça fait doublon. Enfin, ça fait pas doublon justement, ça se complète. Et là, par exemple, je travaille en lien avec l'enseignant de certains de mes élèves par rapport à la dictée. Donc eux, ils ont une façon de préparer la dictée. Donc ils font la dictée de mots, la dictée de phrases. Et ben là, on a mis en place le fait de travailler sur sur les mots de la dictée, mais voilà, on va les regarder complètement autrement. Et donc c'est vraiment un complément, en fait. C'est juste une autre façon de faire les choses qui donne, enfin voilà, qui complète et qui donne plus de sens aussi, dans le sens où il y a deux espaces, deux approches, deux regards, et puis on en parle et ça donne comment dire ? En fait, l'apprentissage, c'est vraiment de passer du temps avec les choses, de les questionner, de les regarder, de prendre le temps d'eux aussi.
Des ponts entre ces pédagogies. Alors, pourquoi ces pédagogies ne se sont pas universalisées, selon toi ? D'ailleurs, que ce soit Montessori ou Freinet ou Steiner, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas encore aujourd'hui dans l'école sous contrat, comme on l'appelle, ou traditionnelle ?
Alors, je pense qu'il y a déjà la partie culturelle, l'aspect culturel. Steiner, en Allemagne, c'est très, très, très répandu. Mmh. Et dans l'école publique, je pense que ça fait partie plus de la culture allemande, cette approche-là. En France, de toutes les pédagogies alternatives, en ce moment, c'est Montessori qui a le plus le vent en poupe. Mais bon, comme dans ton édito, tu le dis bien, on ne regarde pas là où il faudrait. c'est de la démagogie. On n'est pas dans un gouvernement qui cherche le social, le sens. Donc, à partir de là, on ne se pose pas les questions.
Les bonnes questions, en tout cas.
On ne se pose pas les bonnes questions. Donc,
malheureusement.
Donc, moi, je sais que ça me désespère parce que les réponses, on les a. Il suffit d'aller les chercher. Mais on ne va pas chercher de réponses, en fait.
On a dans l'imaginaire que ce sont souvent aussi des pédagogies ou des écoles qui coûtent cher.
Tout à fait.
Donc c'est aussi le problématique, une espèce de frein à son évolution, en tout cas.
Oui. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que j'ai observé qu'en milieu rural, Montessori, ça met une distance, en fait. Les gens, ça peut faire... Il y a une idée d'élitisme, je pense, derrière cette représentation qu'on a de Montessori. Et alors, pourquoi ? Eh bien, parce que Montessori, c'est des écoles qui sont hors contrat, ouais, avec l'État. Donc, ça veut dire que l'État ne donne pas un centime pour la construction pour le fonctionnement d'une école Montessori.
Alors qu'ils en donnent à des écoles privées qui feraient mieux de ne pas exister. C'est quand même fou.
Alors qu'ils en donnent à des écoles privées sous contrat, ouais, justement.
Voilà.
Et qu'est-ce que c'est être sous contrat ou pas, ou hors contrat ? Eh bien, en gros, c'est l'idée que le programme, le contenu, c'est pas l'État qui décide, en fait. C'est pas l'État qui va déterminer ce que les enfants vont apprendre et surtout comment ils vont l'apprendre. Alors bon, c'est un faux problème, hein, parce que évidemment dans les écoles Montessori qui sont donc hors contrat et qui n'ont pas d'argent de l'État pour fonctionner, évidemment les socles de base, comme je le disais, les natures de mots, la grammaire, le système décimal. Évidemment, les enfants, ils sortent de là, ils savent, ils connaissent les quatre opérations, ils connaissent les décimaux, ils connaissent les fractions. Donc, ils sont pas du tout perdus, en fait. C'est pas du tout le problème. Par contre, c'est un autre regard sur ce qu'on va apprendre et comment on va l'apprendre. C'est vraiment l'idée que... les mathématiques, le français, tout ça, c'est un outil pour comprendre quelle est sa place dans l'univers et quelle est sa place dans la société. Et le fond de tout ça, il est toujours omniprésent. Et c'est, la priorité, ce n'est pas que l'enfant il sorte en connaissant un contenu donné, c'est que l'enfant il sorte en ayant une petite idée de ce qu'il est lui, de ce qu'il a envie de faire, de sa motivation. Donc c'est le fond qui change en fait. La priorité, elle n'est vraiment pas mise au même endroit. Et à partir de là... voilà, on n'est pas sur les mêmes enjeux, finalement.
C'est tout à fait clair. Alors là, pour tes ateliers, donc, tu vas préciser, parce que c'est 30 euros pour un atelier, c'est ça? Ou pour les deux, le mardi et le mercredi? Comment ça se passe? C'est quoi tes tarifs?
Alors, les tarifs, c'est 30 euros par atelier.
D'accord.
Après... les tarifs, en fonction du nombre d'ateliers, ils peuvent être vraiment dégressifs et ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, le mieux, en fonction des besoins, c'est de m'appeler et d'en discuter. Et après, y a, 'fin, voilà, ça peut vraiment être modulable.
Est-ce que ce genre de pédagogie est adaptable pour une classe de 25 enfants? Ou c'est compliqué, il faudrait plus des classes, je ne sais pas, de 10-15
Ça dépend. Il y a vraiment... ça dépend. En fait, à la base, c'est des classes de 35 enfants.
Ah oui.
Donc oui, donc c'est des voilà, mais pour avoir 35 enfants qui arrivent à utiliser l'espace de la classe de façon autonome, eh ben il faut un petit peu de pratique, il faut instaurer une culture de classe et ça prend du temps. Si on met 35 enfants d'un coup dans une classe qui ont jamais appris à fonctionner autrement que en étant assis et en écoutant la maîtresse, ça risque d'être un peu violent.
Je crois que je vois l'idée. Ouais.
Voilà, mais oui, c'est fait pour qu'il y ait beaucoup d'enfants et que justement la classe est suffisamment bien, soit suffisamment bien aménagée pour que les enfants connaissent la notice du fonctionnement général, matériel, immatériel, et qu'ils puissent faire les choses en autonomie les uns avec les autres, les uns avec les autres. Et que la maîtresse, elle soit là pour vérifier que tout le monde a bien compris comment ça marche, comment ça roule. Donc oui, c'est fait pour des grands groupes.
Là, ça se passe à la bibliothèque d'Ispagnac. Donc justement, si on parle d'espace, est-ce que tu en as assez? Ou est-ce que tu rêves d'une plus grande salle?
Pour l'instant, la bibliothèque d'Ispagnac, c'est vraiment très bien. Parce qu'on a tous les livres à disposition. C'est une ouverture sur la suite, en fait. Mmh. C'est ça que ça dit, l'espace, il parle de ça. C'est un espace qui est très apaisant, qui est vraiment très favorable à la concentration. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le meilleur espace que j'ai trouvé pour faire ces ateliers de soutien scolaire.
Auditeurs, auditrices, ça se passe à la bibliothèque d'Ispagnac le mardi de 16h45 à 18h et le mercredi de 14h à 17h30. Pour plus d'infos, bah, on peut te contacter à marie.brifa1@gmail.com et je mettrai ton numéro de téléphone sur notre site dans un instant.
Et alors là, j'ai construit un site internet aussi qui est toujours un peu en évolution. Donc c'est diagonale-montessori.fr. Et alors, je propose un stage qui met en lien les mathématiques. Mais il faut justement, ne vous inquiétez pas, les mathématiques, c'est génial.
On l'a vu tout à l'heure avec Martin, hein, on peut jongler, on peut...
Voilà, c'est une ouverture aux mathématiques. Donc, ça se passe pendant la première semaine des vacances scolaires de février. Donc, c'est du 12 au 16 toutes les matinées, donc de 9h à midi. C'est en partenariat avec la Comcom et le foyer rural. C'est 50 euros pour l'ensemble du stage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit le foyer rural, soit me contacter directement par mail pour soit en savoir plus, soit vous inscrire. Voilà.
Et on vous le rappellera dans nos annonces, auditeurs et auditrices, tous les jours à 12h30 et à 18h30. Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. Mercredi, vous retrouverez Léo, parce que je dois m'absenter pour de bonnes et tristes raisons. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je mets tous les contacts de Marie et tous les contacts pour le spectacle de Martin sur notre site dans un instant. Cette matinale est rediffusée à 17h mardi. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Massive Attack. À bientôt, restez bien sur Bartas. Ciao.